Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres avant de commencer, la taxe sur la valeur ajoutée était cette semaine au centre du 30e colloque international du CREDAF à Kinshasa. Les participants venus de 26 pays ont discuté sur les enjeux et problématiques de la TVA. Quelques points de vue à la clôture des travaux de Kinshasa dans votre magazine. L'ONG Greenpeace qualifie d'illégale et destructive l'exploitation forestière pratiquée par la société libanaise Cotrefort. Greenpeace dit que cette exploitation menace certaines espèces rares comme les bonobos et la phomosia. La perception ou non des taxes divise la division provinciale des mines de la province orientale et l'ONG Justice et Dignité pour tous, une organisation basée à Walungu. Le chef de division provinciale des mines, Oni Touré, accuse cette organisation d'appeler les exploitants miniers à la désobéissance fiscale. Voilà pour le titre qui vous seront développés tout à l'heure. Je suis Daniel Tambizoni devant ce micro et à la prise de son Hippolyte Kapanga, bienvenue encore une fois et très bonne écoute de Panorama économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
La TVA, enjeu et problématique. Les délégués des 26 pays et 10 organisations internationales ont réfléchi sur ce thème du 25 au 28 mai dans le cadre du 30e colloque international du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. La TVA pose encore beaucoup de problèmes à toutes les administrations fiscales, même à celles qui l'a créée, à savoir la France. Je vous propose d'écouter le directeur général des impôts de la Côte d'Ivoire, Pascal Abina.
La TVA pose problème à tous les pays du monde, même les pays qui l'ont créé, notamment la France, qui a créé la TVA, continuent d'avoir des problèmes, parce que c'est un impôt indolore. En principe, c'est un impôt facile, mais c'est justement cette facilité qui fait que sa gestion est difficile.
Voilà. Comment elle attend sur
le colloque a proposé des solutions, mais ce n'est pas des paroles d'évangile. Il y a beaucoup de mécanismes à mettre en jeu. Il y a beaucoup de... Parce que la TVA étant un impôt neutre, c'est cela qui pose le problème. Alors même que beaucoup d'exonérations sont accordées aux entreprises parce que on utilise la TVA comme un mécanisme d'attraction des investisseurs. Donc à partir de ce moment, la TVA perd sa neutralité parce que tout le monde devrait être assujetti à la TVA. Mais si on fait des exonérations, ça veut dire que cette taxe n'est plus neutre. Et c'est ça la problématique. Bon, comment faire pour faire face à deux contraintes en même temps, exonération et assurer la neutralité de la TVA. Voilà la problématique majeure. Donc chaque pays essaie d'avoir des mécanismes, et donc à un colloque comme celui-ci, chacun a exposé son expérience.
Et c'était quoi la vôtre, de votre pays, par exemple?
Ah, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, nous modulons la TVA de telle sorte que ça ne freine pas, ça ne soit pas un handicap pour les investissements. Et c'est ce que nous faisons.
Mais vous avez partagé avec les autres?
Ah oui, bien sûr, mais les autres aussi. Chacun, chaque pays, parce que n'oublions pas que la fiscalité, c'est un attribut de la souveraineté des États. C'est chaque État qui crée sa fiscalité. Il y a les grands principes, certes, mais chacun module sa fiscalité selon ses besoins immédiats.
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt simple et efficace dans sa forme, mais il faut beaucoup de technicité dans sa mise en œuvre. Cet avis est celui de cet autre panéliste qui est venu de la France.
Bien, une lecture d'abord que la TVA est un impôt simple et efficace, mais qui demande quand même un grand effort pour être appliqué sur le terrain. Nous avons donc essayé de délimiter les mesures pour que cet impôt devienne plus efficace. Nous avons aussi abordé la question de la collaboration entre les douanes et la DGI et la TVA, cette collaboration qui doit se faire non seulement au niveau de la TVA, mais aussi une collaboration qui doit se faire au niveau de l'échange de données entre ces administrations pour une meilleure efficience de la récolte des recettes de l'État.
Un autre dossier de la semaine, ce sont les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement tenues à Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'issue de ces assemblées annuelles, un nouveau président est élu en remplacement de Donald Kaberuka, de nationalité rwandaise. Celui-ci a dirigé la BAD pendant 2 mandats de 5 ans et il laisse sa place au Nigérian Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'agriculture et du développement rural. Il a obtenu 60,5% de vote des pays membres régionaux, c'est-à-dire les pays africains membres de la BAD, et 58,1% de voix sur l'ensemble des votes, devançant ainsi les candidats du Tchad et du Cap-Vert, les 5 autres ayant été éliminés lors de précédents tours. Réaction à Abidjan de Yav Moulang, ministre congolais des Finances, lui qui a pris part aussi au vote. Il est au micro de René Capita Pelizo de la Radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Qu'il s'agisse des besoins liés aux infrastructures, à l'agriculture, au développement des nouvelles technologies et j'en passe. C'est dire que la tâche qu'il attend est une tâche immense. Je voudrais espérer qu'il sera à la hauteur de toutes ces ambitions-là.
Des attentes particulières pour la RDC, il y en a ?
Oui. Il y a des attentes particulières, il y a les grands Kinga, il y a le développement et la promotion des ressources humaines congolaises qui sont des ressources de qualité, pourquoi pas. Il y a le rayonnement de la BAD elle-même. Quand on voit ce que cette institution par rapport à son image au niveau du pays, je pense qu'il y a du travail à faire.
Et par rapport à l'intégration au niveau de la CEC
Non, à l'intégration au niveau de l'Afrique. Au niveau, la CEAC bénéficie d'un soutien important au niveau de la réalisation de ces différents projets dans les domaines des infrastructures, notamment les infrastructures au sens large, qu'il s'agisse de ponts, routes, rails, que des infrastructures de l'énergie. Il y a également un chantier important pour lequel la BAD est également attendue pour accompagner la réalisation de ces différents projets.
Et je vous signale que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a eu ce mercredi matin à Abidjan un échange avec les médias ivoiriens. Ils ont échangé sur la situation actuelle de l'économie congolaise pour savoir si les performances tant saluées par la communauté financière internationale profitent-elles aux populations congolaises. Et la clôture officielle des travaux des assemblées annuelles de la BAD, qui a bénéficié de la présence des autorités congolaises, est intervenue hier vendredi 29 mai.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Nous revenons sur les autres informations de la semaine et nous commençons par la province de l'Équateur où, dans le district du Sud Ubangi, les chefs de service de l'administration publique ont contesté le week-end dernier la clé de répartition des frais de fonctionnement rétrocédés par le gouvernement central. Le taux appliqué, disait-il, est inférieur à celui envoyé par Kinshasa via Mbandaka. Le chef de division provinciale de budget dit ne pas comprendre cette agitation alors qu'elle répercute tous les canevas de répartition des frais aussitôt arrivés, et cela à toutes les autorités de l'arrière-province. Toujours dans l'Oubangui, mais cette fois-ci dans le nord et dans le secteur de Karawa, en territoire de Businga, nous revenons sur la paralysie administrative marquée la semaine dernière par la marche de la population pour dénoncer la mauvaise gouvernance, le manque d'initiatives de développement et le détournement de fonds de rétrocession. Les bureaux du chef de secteur, celui de son comptable, le bureau du tribunal de paix, de l'inspecteur judiciaire et même celui du substitut du procureur de la République ont été scellés, tout cela pour s'insurger contre les arrestations arbitraires selon la population et autres vices de procédure commis par ces organes de la loi. Dans la province du Bas-Congo, nous vous parlions mardi de 61 conteneurs de bois wenge qui traînaient encore depuis plus de 9 mois au port international de Matadi suite à un contentieux judiciaire controversé. 4 entreprises se disputent cette cargaison. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois basée à Kinshasa demande au ministre de la Justice de laisser le pouvoir judiciaire faire son travail en toute indépendance. Sur ce dossier, nous retrouvons Guy Roger Nyampala pour plus de détails.
Il s'agit exactement d'une cargaison de 584 bois wenge en provenance de la province du Bandundu. Cette cargaison est disputée par 4 entreprises. C'est la lettre du ministre en charge de la Justice datée du 5 mai dernier qui fait débat dans cette affaire, ont affirmé certains membres de la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois basée à Kinshasa. Dans cette lettre, le ministre de la Justice demande à 2 magistrats du tribunal de grande instance de Ndjili de rapporter la décision abusive prise par eux. Décision de justice qui octroie cette cargaison à l'entreprise Talatina au lieu, selon la lettre du ministre, de la livrer à son propriétaire qui est la société Omimex. Pour la coalition nationale contre l'exploitation illégale de bois, ce bois a été coupé illégalement en province du Bandundu. À l'heure actuelle, ces 61 conteneurs traînent au port international de Matadi avec toutes les conséquences, notamment l'engorgement du port. La coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois invite donc le ministre de la Justice à travers sa lettre du 15 mai à laisser le pouvoir judiciaire faire son travail en toute indépendance par rapport à ce dossier. Matadi, Guy Roger Nyampala, Écho d'économie.
Mardi encore, et en province orientale, il s'est observé un mouvement de mécontentement au sein de la division provinciale des mines de Louélé à Issiro. Ce climat malsain a commencé depuis le week-end dernier avec l'arrivée d'un nouveau chef de division provinciale des mines qui vient de Bounia en Ituri. Certains agents de cette division ne veulent pas travailler avec lui. Il accuse à tort ou à raison, sait-on, d'être un mauvais gestionnaire. Et en réaction, le porte-parole du gouvernement provincial estime que ce climat est intentionnellement alimenté par certains agents assoiffés du pouvoir alors qu'il n'y a rien. Les détails avec Aliana Alipanagama.
La remise et reprise est intervenue le vendredi dernier. À l'issue de cette cérémonie, certains agents ont été mécontents de l'affectation à Issiro de ce chef de division qui, selon eux, ne s'était pas comporté dignement à son ancien poste d'attache. Ces mêmes agents affirment qu'il s'est amené avec d'autres agents moins crédibles ayant un passé sombre dans la gestion du secteur des mines et d'ajouter que ce nouveau chef aurait même menacé d'écarter de la liste les agents non payés et nouvelles unités. L'ancien ministre provincial en charge des mines et actuellement porte-parole du gouvernement provincial a réagi à cette situation. Selon Paulin Odiane, il n'y a pas de mécontentement. Selon lui, cette situation est orchestrée par certaines personnes mal intentionnées qui veulent tribaliser l'administration publique. Paulin Odiane ajoute qu'il ne sera pas aussi question d'amener d'autres agents de travailler dans ce bureau sans une affectation signée par l'autorité compétente. Il ne sera pas non plus question de révoquer le personnel en place déjà enrôlé sous prétexte qu'il s'agit de nouvelles unités. Aliana Lipanagama Kisangani, Radio Kapi.
Mercredi et à travers le pays, le personnel national de la MONUSCO, mission des Nations Unies en RDC, a observé un sit-in dans les différents bureaux de représentation. Cette manifestation pour réclamer le paiement légal des indemnités de sortie à tous les fonctionnaires touchés par la réduction des effectifs de la mission, opération qui s'inscrit dans le cadre de la reconfiguration de la mission telle que décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut dire que près de 150 postes au sein de la MONUSCO pourront être supprimés d'ici fin juin. N'ayant pas reçu des assurances de la part de l'administration de la MONUSCO, le personnel national avait observé ce sit-in de mercredi à vendredi. En réponse, le porte-parole de la MONUSCO avait fait savoir que ce processus n'est pas seulement l'affaire du personnel national, même les internationaux sont aussi concernés et que l'administration travaillait sur ces dossiers pour une solution apaisée. Dans le sud Kivu, des quantités importantes de manioc et de patates douces d'une trentaine d'hectares de champs récoltés frauduleusement par des hommes non autrement identifiés à Runingu. Le président du conseil territorial de la jeunesse en territoire d'Uvira a attribué ce vol aux rebelles burundais du Front National pour la Libération, le FNL, basé dans le groupement de Mungu. Valeur chiffrée de la récolte emportée, 30 millions de francs congolais, selon un agronome de Runingu. Nous restons dans cette province pour parler de la société civile Force Vive qui s'insurge contre la poursuite de l'exploitation minière artisanale sur la rivière Oulindi dans le territoire de Chabunda, une opération qui va à l'encontre d'une directive du Premier ministre demandant la cessation sans délai de l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle le long de cette rivière. Pour le Premier ministre, les résultats d'analyse des échantillons prélevés sur la rivière Oulindi l'année dernière avait révélé une teneur en thorium et en uranium dépassant les seuils maxima fixés par l'Organisation mondiale de la santé. La société civile exige la mise en application de cette mesure. Descartes Pongué, président provincial de la société civile du Sud Kivu, s'exprime au micro de Emmanuel Elameji Wakabedi.
Ce que nous dénonçons, c'est le fait que depuis le mois de mars, le Premier ministre a donné cette instruction d'appliquer cette mesure sans délai. Mais aujourd'hui, nous sommes en fin mai, mais le gouvernement provincial est en train de vouloir censurer. Ça, c'est une façon de vouloir censurer la décision du Premier ministre. Mais aussi, l'exploitation des minerais dans cette rivière alimente les conflits aujourd'hui. Il y a les Raya Mutomboki qui sont alimentés par les tenants des propriétaires de ces dragues qui travaillent là-bas, d'abord dans l'illégalité, mais aussi collaborent avec les groupes armés, les Raya Mutomboki. Et du coup, nous n'aurons pas la paix. Pour nous, la priorité, c'est la paix qui passe par la suspension d'abord de cette exploitation qui ne profite pas aux communautés, mais qui profite aussi à certains individus au niveau provincial et au niveau national. Donc nous soutenons que cette mesure soit exécutée, autrement ça serait une rébellion contre la décision de la hiérarchie.
La deuxième édition de Katanga Business Meeting a ouvert ses portes jeudi à Lubumbashi. Ce grand salon de business veut permettre aux entrepreneurs de se connaître, d'échanger et de créer des opportunités d'affaires. Pour cette deuxième édition, le gouvernement provincial du Katanga a érigé aussi un stand, occasion pour les investisseurs de trouver la réponse à toutes les questions relatives à l'investissement dans la province. Nelly Kabena, qui était à l'ouverture de ce salon, nous propose ce reportage.
Plus de 160 entreprises venues de plusieurs pays du monde, spécialisées dans le domaine minier, énergétique, agricole, ainsi que les structures bancaires, sont présentes. Cette deuxième édition du Katanga Business Meeting, organisée par la société de communication MUSAL, en partenariat avec le gouvernement provincial, est le reflet d'une Afrique en plein essor économique. Pour le président de la Fédération des entreprises du Congo, Antenne du Katanga, le taux de croissance économique dans notre pays est tributaire de la performance du secteur minier. Eric Monga.
La production minière, qui connaît chaque année une croissance, nous permet d'espérer une production supérieure à 1100 tonnes de cuivre produit cette année contre 40 000 tonnes il y a 10 ans. Ceci nécessitera sans doute plus d'investissements, plus d'échanges, plus de besoins en consommation d'intrants, en transport des biens et des personnes, c'est-à-dire des effets d'entraînement de cette hausse de production dans le secteur minier permettront de booster d'autres secteurs d'activité économique dans notre province et impacteront en grande partie la croissance constatée dans notre pays.
La même source a toutefois déploré les pesanteurs qui continuent d'entraver la vie économique, principalement les tracasseries administratives et le déficit en énergie électrique qui ne permettent pas de réaliser une bonne production. Au-delà des expositions, il est aussi prévu des conférences débats sur des thèmes variés, dont l'éthique des affaires pour le développement des entreprises en RDC. Pour l'un des exposants, l'Afrique offre plusieurs secteurs d'investissement, notamment l'agriculture.
Actuellement, on exploite 1200 hectares de maïs. Avec ce farine, on produit deux types de farine, qui sont la farine foule et la farine break. Et on a également commencé une exploitation de soja, duquel on tire le tourteau de soja, donc qui peut être intégré dans les aliments humains ou animaux. Également l'huile de soja.
Il y a aussi l'énergie, le transport aérien, fluvial et même routier. Avec effet d'entraînement dans les secteurs financiers, notamment les banques.
Nous avons réalisé beaucoup de progrès, surtout dans la croissance de notre portefeuille, en volume ou en nombre, en termes des clients et des crédits octroyés aux PME.
Présent à cet événement, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Pancras Bongo, a indiqué que le gouvernement national poursuit les réformes visant à l'amélioration de la gouvernance économique et l'assainissement du climat des affaires. Le gouverneur du Katanga a quant à lui exhorté les autorités tant provinciales que nationales à sécuriser les investisseurs et à leur accorder toutes les facilités requises. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Et nous allons terminer cette série par Kinshasa où jeudi nous vous parlions d'un accord de rachat des actions conclues mardi entre la ProCredit Bank au Congo de la République démocratique du Congo et Equity Bank, un groupe bancaire kenyan. En date du 26 mai dernier, mardi donc, selon cet accord, le groupe kenyan devra acquérir 79% des actions dans ProCredit Bank Congo. Le Kenya Equity Bank inscrit cette action dans le cadre de son programme d'expansion à travers 10 pays africains. Lydie Bettina.
L'accord du 26 mai entre la banque ProCredit Congo Compte et la Kenyan Equity est soumis à l'approbation des banques centrales du Congo et du Kenya. Cette approbation donnera alors à l'effectivité de la transaction au terme de laquelle Equity deviendra le plus grand actionnaire de ProCredit Bank avec 79%. Ces actions étaient détenues avant leur vente par la Société belge d'investissement pour les pays en développement et la Fondation Doen d'Allemagne. Le message important du directeur général de ProCredit Bank, qui a dans ses livres plus de 170 000 comptes actifs à ses clients et le personnel de la banque, est que ce changement d'actionnaire n'aura aucune répercussion sur eux. La banque continuera à fournir le service de qualité tel que voulu par ses clients. La Kenyan Equity est déjà active en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et au Soudan du Sud. Son intention annoncée est de consacrer près de 200 millions d'euros pour s'installer dans 10 nouveaux pays d'Afrique. Peu bancarisée et fortement peuplée, la République démocratique du Congo sera, à en croire le directeur général de ProCredit Bank, la première marche de ce programme d'expansion. Sans donner de détails financiers sur la prise de contrôle de ProCredit Bank Congo, le responsable d'Equity a précisé simplement qu'elle est dans sa dernière ligne et qu'elle n'attend plus que l'approbation des autorités réglementaires pour se mettre au travail.
Panorama économique, matières premières.
Prenons les matières premières pour boucler définitivement le panorama économique de cette semaine. La société minière de Kilomoto Sokimu a expédié la semaine dernière 842 kg d'échantillons de minerais pour en déterminer la teneur en or au laboratoire géologique de Mwanza, c'est en Tanzanie. Ces échantillons ont été prélevés dans la concession de cette entreprise à Nizi, localité située à environ 25 km de Bunia en territoire de Djougou. Selon un géologue de la Sokimo, les résultats de ces échantillons vont permettre à la Sokimo de relancer l'exploitation de l'or. Aliénio Gilbert est au micro de Delvin Waïsala.
Nous faisons le colissage de tout ce que nous avons récolté jusque-là comme des échantillons géologiques. Et une fois colissés, on les met dans les véhicules, ils voyagent pour les laboratoires, c'est à Mwanza, à Tanzanie. Après des années, Kilomoto a jugé bon de réévaluer ses réserves et c'est pour cette raison qu'on a fait quelques échantillons là-dessus pour chercher à évaluer de nouvelles réserves. Une fois expédiées, ce que nous attendons, ce sont des chiffres en termes de teneur. Et cela nous déterminera quelle quantité on peut retirer d'azine tonnes de minerais bruts.
Les services de mine doivent être là pour certifier qu'il s'agit effectivement des échantillons. Le service de mine, c'est le témoin.
Et c'est par l'Ituri que nous allons boucler le panorama économique de cette semaine. Je suis Daniel Tambizoni. Tout le plaisir était pour moi de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission que je vous convie à retrouver sur www.radioocapi.net. Merci de votre fidélité.